aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Bonjour, c'est Hervé Villard, vous êtes sur Radio Andorre, 428 ondes moyennes. Vous êtes en vacances ou à la maison, j'ai choisi un programme de disques avec vous. Vous aurez un invité dans le courant de l'émission puisque nous allons passer 3 heures ensemble. Notre invité sera Monsieur Guy Descartes. Alors, j'ai choisi, je vous disais, un programme de disques. J'ai pensé aux discothèques, aux vacances, surtout au Brésil, parce que vous savez que j'ai passé pendant quelques années, j'ai passé ma vie à chanter pendant quelques années au Brésil. Alors, j'ai choisi Jorge Ben, voici le premier disque.
Abençoado por Deus e bonito por natureza, mas que beleza em fevereiro tem carnaval, tem um fusco, um violão, sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Some baby, sou um menino de mentalidades mediana.
Pois é.
Mas nasci mesmo feliz da vida, contente, pois eu não devo nada a ninguém.
Pois é.
Pois eu sou feliz, muito feliz, comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza.
Mas que beleza.
Tem carnaval, tem um fisco, um violão, sou flamengo, tem uma nega chamada Teresa. Some baby, eu posso não ser um band leader, mas assumindo lá em casa todos os meus amigos, meus camaradinhas me respeitam. Essa é a razão da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Novamente ele chegou com inspiração, com muito amor, com emoção, com explosão em gol, sacudindo a torcida aos 33 minutos do segundo tempo. Depois de fazer uma jogada celestial em gol, tabelou, driblou dois zagueiros, deu um toque e driblou o goleiro. Só não entrou com bola e tudo porque teve humildade. Foi um gol de classe onde ele mostrou sua malícia e sua raça. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa, que a galera agradecida se encantava. Viu maravilha, nós gostamos de você. Viu maravilha, faz mais um pra gente ver. Viu maravilha, nós gostamos de você. Viu maravilha, faz mais um pra gente ver. Vai ser barra.
Le Brésil. C'est loin tout ça. Non, je suis en France, mais je n'ai pas oublié le Brésil. Vous savez quand au Brésil, on danse, on chante et le monde est fait de musique. France Gall, musique. Je vous rappelle que c'est Hervé Villard qui est aujourd'hui en votre compagnie sur Radio Andorre, 428 mètres, onde moyenne. Alors je vous parlais de musique. Il y a un groupe que j'aime beaucoup, particulièrement, je dirais. Il s'appelle ABBA et il nous dit à nous. Merci pour cette musique, ça veut dire en anglais, thank you for the music.
I'm nothing special, in fact, I'm a bit of a bore. If I tell a joke, you've probably heard it before. But I have a talent, a wonderful thing. 'Cause everyone listens when I start to sing. I'm so grateful and proud. All I want is to sing it out loud. So I say thank you for the music, the songs I'm singing. Thanks for all the joy they're bringing. Who can live without it? I ask in all honesty, what would life be without the song? My friends, what are we? So I say thank you for the music, for giving it to me. Mother says I was a dancer before I could walk. She says I began to sing long before.
Savez-vous que nous, les chanteurs, nous sommes un peu comme les couturiers. On écrit les chansons d'été, l'hiver. Ça dépend des fois, mais je me souviens d'avoir écrit une chanson qui s'appelle Rêverie, que vous connaissez certainement. À Cabourg, il pleuvait, c'était en plein hiver, et j'avais toujours pensé aller un jour comme ça, sur la plage de Cabourg, où avait marché Marcel Proust. Je me souviens de cette fameuse promenade. Je ne sais plus de quoi il parle exactement dans son livre, parce que je l'ai lu deux fois, je n'ai jamais rien compris. Mais ça m'a quand même inspiré un peu. C'est pour ça que j'ai écrit Rêverie. Alors, voici Rêverie et dansez bien.
Ce n'est qu'un lourd instant de crise qui revient. Un grand amour meurt à Venise, et c'est le mien. Il doit faire très beau dans la vie de celles qui m'ont aimé. Le jour se lève et moi je rêve de m'évader. Oh. quitter pour la vie. J'aurai moins le cafard dès que sera parti. De ma mémoire, cet adagio d'Albinoni. Si pour une fois, un de mes rêves se réalise, que par miracle, ma gondole s'envole. La vie. J'aurai moins le cafard dès que sera parti. De ma mémoire, cet adagio d'Albinoni. Si pour une fois, un de mes rêves se réalise. Par miracle, ma gondole s'envolait. Rêverie. Combien d'avions j'ai pris et de bateaux pour des amours qui sont tombés à l'eau. Venise, tu n'auras jamais ma mort. Rêverie. Faites un effort, allez, promettez-moi. Quand je ferai l'amour pour la dernière fois. D'une femme en or.
Hervé Villard par Hervé Villard. C'est difficile pour un chanteur de parler de soi. Enfin, il y a quelqu'un dans le studio qui me disait, mais ils sont sur la plage, alors ils peuvent pas danser. Comment on peut pas danser sur la plage? On peut danser sur le sable, il suffit de lever un petit peu les pieds comme ça, mais on peut danser le jerk, je sais plus ce qu'on appelle disco. On peut pas danser sur la plage. Mais si, on peut danser sur la plage. Même le slow, tendrement, amoureusement. Alors, on peut changer de style aussi. Hein, on peut s'amuser, par exemple, je sais pas moi, avec Rod Stewart dans Daya Think, I Am Sexy. Et Rod Stewart. Je vous signale quand même que M. Arti Parera, responsable des programmes de Radio Andorre, m'a laissé l'entière responsabilité et liberté aujourd'hui pour vous choisir un programme de musique pendant 3 heures. C'est merveilleux pour un chanteur de pouvoir s'exprimer sur une antenne et parler aux gens de la musique qu'il aime. Alors moi, je vais vous dire, tout à l'heure, nous allons recevoir M. Guy Descartes. Ce n'est pas un musicien, c'est un écrivain, comme vous le savez. Mais il y a quelqu'un que j'aime particulièrement, parce que je le considère comme un grand. Et c'est rare qu'on le dise quand même. On dit, oui, j'aime, mais on ne dit pas que c'est un grand. Alors pour moi, Gainsbourg, c'est un grand. Et j'adore cette chanson, écoutez-la bien, vous la connaissez, mais écoutez-la
je
bien.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis la présence qu'a sonné l'heure. Des adieux à jamais. Et je suis au regret de te dire que je m'en vais. Mais je t'aimais, oui. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis, apeurant que ce n'est l'heure. Des adieux à jamais, je suis au regret te dire que je m'en vais. Car tu m'en as trop fait. Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens, tu pleures. Tu suffoques, tu blêmis, à présent que ce n'est heureux. Des adieux à jamais, je suis au regret. Je te dis que je m'en vais. Oui, je t'aime, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Tes sanglots longs ne pourront rien changer. Comme d'ici bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours heureux et tu pleures. Tu sanglotes, tu gémis à présent. Personne n'est heureux. Des adieux à jamais. Oui, je suis au regret de te dire que je m'en vais.
Elle pleure bien, Jane Birkin. Hein? Elle pleure bien, mais elle pleure pas longtemps. Elle se marre plutôt dans la vie. Vous savez que c'est quelqu'un de très gai. D'ailleurs, Gainsbourg aussi, à 3h du matin, il est très, très gai, je dois dire. Qu'est-ce que je vais vous raconter là? Vous savez que ce n'est pas mon métier de parler comme ça dans le poste, comme on dit. Hein? Alors, qu'est-ce que je peux choisir maintenant? Un petit Beatles, pour, comme ça, pour le métier. C'est quand même... C'était quand même des types fantastiques. Quel dommage qu'ils se soient séparés. Mais enfin, tout à l'heure, je vous passerai un Paul McCartney. Vous verrez qu'on n'a rien à regretter. En attendant, je vais vous passer une belle chanson des Beatles. Elles sont toutes belles, mais celle-là, je la préfère aux autres. Elle s'appelle Yesterday.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly there's a shadow hanging over me. I'm not half the man I used to be. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
C'est ce qu'on appelle un chef-d'œuvre. C'est magnifique, c'est beau. Et puis, j'espère qu'il fait beau aussi aujourd'hui. Alors, je vous disais tout à l'heure, si vous êtes à la maison, ça doit vous amener un petit peu de soleil, même si ça vous en amène un petit peu plus. Et puis, je vous ai promis Paul McCartney. C'était lui qui chantait, vous savez, dans Yesterday. C'est-à-dire que les Beatles, finalement, c'était Paul McCartney. Ça a toujours été lui qui chantait. Enfin, les autres chantaient pas beaucoup, Harrison, Ringo, tout ça. Ringo, c'était le batteur, tout ça. Alors là, on va prendre Monsieur McCartney tout seul. Et il va nous chanter... attendez, j'ai perdu mes petits papiers, mais je ne sais pas, mais... De toute façon, c'est Paul McCartney.
Thank you.
C'était Paul McCartney. C'était bien, hein? Formidable. C'est bon, comme dirait Bernadette Lafont. Elle parle comme ça. Bon, oui, je vais vous passer un jeune chanteur. Et je voudrais vous parler des jeunes chanteurs. Ça doit être difficile aujourd'hui pour un jeune chanteur de s'imposer dans le métier de la chanson. Parce que ce métier, les hit-parades deviennent de bois, comme dirait Michel Delpech. Enfin, je crois que c'est... Non, c'est Nicolas Perrac qui disait que les hit-parades étaient de bois. Et je pense que pour un jeune, aujourd'hui, se faire entendre, c'est presque inhumain. C'est-à-dire qu'il y a une frontière qui, entre le public et le chanteur qui s'installe, c'est le métier. Alors, celui-là, moi, je crois qu'il va aller loin. Il s'appelle Valerio et il nous chante « Bravo, chérie ».
Gagné, qui aurait dit, je suis accroché, c'est sur ma main qu'il est écrit que je rejoins ta ligne de vie. Bravo chérie, tu me fais craquer, je me laisse aller à délirer, je suis heureux, fais prix au jeu.
Cet été sur les plages, t'iras danser le disco sur l'eau. Y'aura un reporter qui te fera coucou oiseau. Pour mettre en première page la jolie photo, y'a vraiment pas de quoi t'oublier.
Bravo chérie, fais ma folie. Je tourne en rond, sans direction. Si pour t'aimer, je dois patienter. Sauvage rusé, je t'attendrai.
Joli cœur, tu te balances à contredanse. La voix du chanteur, il te parle de vacances. Il te prend pour témoin dans tous ses refrains. Y'a vraiment pas de quoi t'oublier.
Bravo chérie, tu as gagné. Qui l'aurait dit, je suis accroché. Laisse-toi aller.
C'était Valerio, un jeune de 20 ans. Moi, j'en ai 33. Je vous signale que vous êtes sur Radio Andorre, 428 mètres ondes moyennes, en compagnie d'Hervé Villard. Alors, je vous rappelle que ce choix de disque aujourd'hui, j'en ai l'entière responsabilité. Et j'aime beaucoup la voix de Marie-Myriam. Et elle nous chante « Un homme libre ».
Il a dansé des cris et des grands serpentins. pra tudo, tudo se acabar na terça-feira.
Quelle ambiance il y a dans ce studio de Radio Andorre. Même Arti Parera danse. Tout le monde est content. C'est l'été, il fait beau et tout ça. Bien. Qu'est-ce que je peux vous passer maintenant? Vous savez que j'ai encore 2 heures de programme à choisir. On va prendre un petit Boney M, là, parce que la jeunesse aime beaucoup Boney M, et puis les autres aussi, et puis moi aussi. Alors, always, always, Boney M. Les chansons les plus simples sont toujours les meilleures. Alors là, vous êtes, la plupart d'entre vous êtes comme moi, vous comprenez rien de ce qu'il raconte, mais la musique est tellement simple et sautillante et bonne que on a envie de danser, on est gai, on est bien. Alors maintenant, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble. Vous vous rendez compte comme le temps passe, mais il nous en reste 2 ensemble. Je vous rappelle que c'est Hervé Villard qui est sur Radio Andorre aujourd'hui avec vous, encore pendant 2 heures, que nous recevrons Monsieur Guy Descartes dans l'heure qui va suivre. J'espère qu'il va arriver, parce qu'il n'est pas encore là, mais il va certainement pas tarder. C'est un monsieur à l'heure. En ce moment, je vous laisse en compagnie de Hervé Villard.
illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. Une histoire de rien du tout, comme il en existe beaucoup. Notre amour qu'on croyait petit a grandi quand tu es parti. Grandi comme une déchirure, comme une blessure. Mais pourquoi,
pourquoi, pourquoi, pourquoi,
pourquoi le silence? Pourquoi,
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 pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'était comme un défi au temps, le printemps avant le printemps, un chemin qui va n'importe où, mais semé de roses partout. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. C'est la fin du premier amour, ma vie qui appelle au secours. J'en rêve et j'en crève, mais pourquoi,
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 pourquoi le silence? Pourquoi,
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 pourquoi ce grand vide quand je pense à nous? C'est un cri arraché au ciel, un rayon qui manque au soleil. Quatre lettres. Quand on oublie, tu t'en fous. Je suis seul à nos rendez-vous, mais parfois dans mes rêves flous, une voix de je ne sais où me parle d'espoir et de nous. Nous, c'est une illusion qui meurt d'un éclat de rire en plein cœur. C'est la fin du premier. Ma vie qui appelle au secours.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Vous êtes sur Radio Andorre, 428 mètres onde moyenne, en compagnie d'Hervé Villard, qui prend l'entière responsabilité de la programmation des disques aujourd'hui. Alors, le premier disque de cette deuxième heure, j'ai choisi Olivia Newton-John, A Little More Love.
The word I can say.
Quelle beauté, quelle voix. Vraiment extraordinaire cette femme. C'est vraiment ça, c'est une chanteuse. Olivia Newton-John. Et lui, ça, c'est un chanteur. Mais un grand chanteur. C'est surtout un ami pour moi. J'ai eu l'occasion de faire, je crois, 3 ou 4 tournées en France, à travers la France, avec lui et la Belgique d'ailleurs. Il s'appelle Michel Sardou. Et il nous chante dans la même année.
Même année, Dieu crée la femme et j'étais viré d'abord du ciné, trop petit pour entrer, et puis de mon lycée, le dernier que ma mère ait trouvé. Dans la même année, connu là, vent triste dans le yaya. Elle était, je crois, un peu plus vieille que moi. Ma première fiancée, celle qui allait m'apprendre à aimer.
Toutes les femmes sont
et d'un job à mi-temps, le dernier qu'ait trouvé ma maman.
Toutes les femmes sont belles et méchantes et cruelles, mais elles nous font si bien l'amour que Dieu leur
Vous avez promis Monsieur Descartes, il est là, je suis ravi de l'accueillir, je lui céderai la parole tout à l'heure. Bonjour Monsieur Descartes.
Bonjour Hervé Villard.
Nous allons parler, je vais vous céder l'antenne dans quelques instants, mais avant nous allons passer Patrick Juvet.
Oui.
Vous connaissez bien?
Oui, très bien.
Alors il va nous parler du Gai Paris. Vous connaissez vous le Gai Paris?
Oh, très bien.
On en parlera tout à l'heure du Gai Paris.
Je connais bien Paris.
Never is it the wrong time to let feelings show.
sounds funny, but I should have missed you, honey, more than you could know. I loved you so.
Madame Nadia est une voyante surprenante dont le don s'est révélé presque depuis son enfance et qui a réussi à atteindre encore très jeune une immense renommée. Alors, Monsieur Descartes, vous êtes le best-seller de cet été encore une fois. J'aimerais que vous m'en parliez de ce livre. Donc, tout le monde en parle cet été sur les plages, tout le monde a son petit livre sous le bras. Alors parlez-moi un petit peu.
Mais c'est la première fois que j'en parle car il paraît aujourd'hui.
Ah bon.
Alors, ceci dit, j'étais fasciné par une chose. Nous avons tous entendu parler de voyantes, dont la fameuse Madame Soleil, dont Pompidou avait fait l'éloge.
Ça.
Et je me suis aperçu d'une chose assez fantastique. C'est que toutes les voyantes voient pour tout le monde, sauf pour elles.
Ah.
Et je me suis dit, il y a peut-être un roman formidable à faire. C'est de faire la voyante qui voit pour tout le monde, sauf pour elle, et ça devient tragique. Mais pour qu'il y ait un roman, il faut une histoire d'amour. Il n'y a pas de roman, et je peux dire que c'est une loi absolue du métier.
Oui, c'est comme dans les chansons, finalement.
Ah, mais absolument. Le plus grand roman, au départ, était La Princesse de Clèves, c'était un roman d'amour, Madame Bovary, tous les grands romans étaient des romans d'amour. Il faut une histoire. Je me suis dit, mais si ma voyante tombait brusquement amoureuse d'un type qui ne croit pas aux voyantes, il y en a beaucoup, alors ça changerait tout. Alors elle veut lui persuader qu'elle peut l'aider, qu'elle peut être sa compagne, qu'elle peut tout lui montrer dans la vie. Et vous allez voir ce que donne une voyante qui croit voir, qui voit assez bien pour les autres, pour sa vie personnelle. Là, elle ne voit rien du tout. Parce que quand Madame Soleil a été condamnée à une amende formidable pour le fisc, elle n'avait pas vu arriver le redressement fiscal. Et ce qui est très curieux, c'est que les voyantes, il y a des tas de gens qui, avant de faire leur feuille d'impôt, j'en ai consulté à peu près 200,
oui.
Qui se doutait pas pourquoi d'ailleurs. Et je peux vous dire que c'est très drôle. Et je lui dis, mais est-ce que vous pourriez m'aider à faire ma feuille d'impôt? Est-ce que vous pourriez me dire ce qui va se passer? Ah ça, non, c'est pas notre domaine. J'ai vu, il y a des hommes politiques fabuleux qui passent leur vie chez les voyantes. Mmh. À un moment. Et le nombre de gens qui à chaque élection viennent les trouver pour demander pour qui faut-il voter, en ce moment, elles sont inondées de braves dames et de braves gens qui viennent les voir pour leur demander comment il faut voter pour l'Europe, pour quelle liste.
C'est ça, oui. Bon.
Alors là, elles disent ce qu'elles peuvent, elles doivent lire les journaux. Mais quand il s'agit d'elles-mêmes, elles ne voient plus rien. C'est-à-dire que cette pauvre Madame Soleil a eu une amende formidable qu'elle n'avait pas vue arriver sur ses...
Elle ne doit pas être si pauvre que ça.
Non, mais enfin, je vous dis, au point de vue voyance. Alors j'ai pensé que si une femme en plus voyante tombe amoureuse, mais vraiment amoureuse, elle veut aider son amour, elle veut aider ça. Et là, elle commence à tricher.
Ouais.
Et là, ça devient extraordinaire.
Ah.
Parce que vous savez, la voyance se fait où? Par les cartes. J'ai étudié tous ces trucs-là, normal, ou par les tarots, par la boule de cristal, ou par le pendule, tout ce que vous voulez, ou les taches d'encre. Elle utilise tous les moyens. Et au départ, il y a une erreur dans sa voyance, parce qu'elle est amoureuse. Et la mécanique roule absolue tout le livre, et ça mène au drame. Et ça, c'est une mécanique assez curieuse, de voir ces gens qui donnent des conseils aux autres, qui les reçoivent et qui sont très malheureux dans leur vie personnelle. Et ça pouvait faire un formidable conflit, un livre. Et ça, je crois que je sais pas si je l'ai réussi, mais enfin, il part.
Bah, écoutez, mais enfin, vous ça, l'avez c'est... réussi. Nous sommes au mois,
enfin, il est
au
fait.
Mois de juillet.
Il est pas, on verra.
Mais enfin, nous sommes voilà. En vacances.
Alors, j'ai trouvé que c'était étonnant. Notez bien qu'il faut se souvenir toujours d'un mot de Tristan Bernard. Il était fasciné par les voyants, cet homme d'esprit. On lui a dit, il y a une voyante extraordinaire qui habite du côté de la gare du Nord. Alors, il a été dans un immeuble sordide du côté de la gare du Nord. Il s'est tapé 6 étages, le vieux Tristan. Il a monté cet escalier en soufflant, il était plutôt jeune. Il est arrivé au 6e, il y avait une espèce de mansarde, une porte. Il y avait un pied de biche, il m'avait raconté ça. Et il y avait sur la porte... une espèce de pancarte en cuivre délavé, où il y avait Madame de Trébizonde, voyante extra-lucide. Alors, il s'est recueilli, et puis il a tiré le pied de biche. Ah. Une fois, deux fois, trois fois, il entendait une cloche qui sonnait dans le fond de l'appartement, et il entend tout à coup une voix angoissée qui dit « Qui est-ce ?» Et il a répondu « Vous ne me voyez pas, je m'en vais », il est reparti.
Ah. Ça, c'est une drôle. Alors, dites-moi, la femme qui en savait trop, expliquez-moi, donnez-moi un petit peu plus de détails sur l'amour.
Je vais vous dire. La plupart des gens qui vont consulter les voyantes, c'est pour des problèmes de cœur.
Oui.
Forcément. De tous les bords.
Oui, certain, cela.
Et alors, parce qu'au fond, quand quelqu'un vient trouver une voyante, c'est qu'il est désespéré. Il a été trouvé souvent des psychanalystes, il a été trouvé des médecins, des psychiatres. Et au fond, ceux-là lui donnent des traitements, vous reviendrez, vous expliquerez. Et quelquefois, elle leur donne des médicaments. L'avantage de la voyante, c'est qu'elle ne donne aucun médicament. Le médicament, c'est elle-même. Alors, elle dit, qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez les cartes? Est-ce que vous préférez les tarots? Est-ce que vous préférez ceci? En général, comme les gens n'y connaissent rien du tout, ils choisissent les cartes normales. Les cartes permettent beaucoup de choses.
Mmh, hein? C'est certain.
Mais voyons. Alors, le problème des cartes, c'est qu'il faut toujours, quand vous étalez, je coupez, battez, recoupez, etc., machin, et on aligne les cartes, on en garde un petit peu en réserve, et on s'aperçoit qu'il tombe presque toujours sur le jeu trois femmes. Il tombe la dame de pique, la dame de trèfle et la dame de cœur. Et j'ai joué avec mes trois bonnes femmes. Ah. Sommet s'était trompé dans les places des cartes, et ça fait un roman.
C'est formidable. Dites-moi, vous écrivez beaucoup, je vois le mage et la boule de cristal.
Oui, ça c'était.
Le mage et le pendu.
Oui, oui, j'ai fait toute la série des mages. Mais le mage, c'était autre chose. Le mage, c'était un monsieur chez lui qui recevait des gens. Et ce qui m'a permis, c'était chez Flammarion à cette époque-là, j'avais dit que ce serait une série assez extraordinaire, de faire des grandes nouvelles, de redonner le goût de la nouvelle. Alors chaque consultant raconte son problème. Et c'est comme ça que ça a été enchaîné par le mage.
Ah, mais dites-moi, vous savez que...
Mais c'était pas le roman complet, vous comprenez?
Tout le monde est intéressé par la voyance. Est-ce que vous aimez, vous, la guitare?
Ah oui, j'aime bien la guitare, ça dépend qui en joue.
Narciso Yepes.
Ah oui, c'est très bien.
Et le concerto d'Aranjuez.
Ben, magnifique.
Voilà.
Thank you.
Monsieur Descartes, si je vous dis que vous êtes un auteur populaire, est-ce que ça vous gêne ?
Mais ça me plaît beaucoup. Vous savez, un jour à une télévision, il y avait un brave homme qui m'a dit « Mais enfin, monsieur, vous êtes aristocrate, fils de duc, ça vous gêne pas d'être auteur populaire ?» J'ai dit « Monsieur, la chose la pire pour un auteur, c'est d'être impopulaire. »
Oui, et Madame Soleil, vous savez, dans la chanson, on dit « Si tu veux pas payer d'impôts, cache ton piano. » Je pense que Madame Soleil, elle aurait dû cacher ses cartes, vous pensez pas?
Oui, en admettant que le piano soit un signe extérieur de richesse. Actuellement, on trouve des pianos à vendre partout, personne n'a plus de piano.
L'autre jour au café, j'ai entendu un député qui a un ami murmurer ceci: prends tes précautions et surtout fais bien attention aux prochaines contributions. Puis mystérieux et très sérieux, il ajouta: mon vieux, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phonie, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Je me dis ça pristi, il faut que tout le monde soit averti. Dans un thé dansant, je cours immédiatement. Quatre musiciens, de très beaux oiseaux hawaïens, grattés sans se douter de rien. Au maestro des musicaux, je chantais: mon pauvre gros, si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Les ayant prévenus, je suis allé voir une revue au casino le soir, je m'offre un promenoir. Lorsqu'au même instant, je vois la vedette en chantant, qui souriait toutes ses dents. Dans la coulisse, vite je me glissais tout bas, je dis ensuite: si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton phono, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. L'autre jour à Bruxelles, je pars racheter de la dentelle. Quand sur une fontaine, je vois qu'elle s'en gêne. Un gosse plein de vis qui montre à tout son appendice. C'était le mannequin Pisse. Je lui dis, mon petit, c'est de la folie de montrer ton nombril. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambour avec tes baguettes, tes castagnettes et tes rouleaux. Si tu ne veux pas payer l'impôt, cache ton phone, cache tes rouleaux, cache tes claquettes, ton trombone et ta clarinette. Si tu ne veux pas payer l'impôt, cache ton piano.
Alors, Monsieur Descartes, j'aimerais que vous me reparliez un peu de ce livre dont tout le monde parle cet été, La femme qui en savait trop. Vous l'avez écrit en trois parties. Il y a la partie de la visiteuse, le passé et le présent.
Oui.
Vous avez oublié l'avenir dans tout ça.
Parce que dans l'ensemble, l'avenir, ils peuvent vous dire n'importe quoi, comme ils ne seront plus là et vous non plus. Ils se méfient. Parce que l'avenir, notez bien qu'on vous dit toujours, quand vous allez chez un mage ou une voyante, que ça va s'arranger. Parce que si on disait que ça ne s'arrange pas du tout, on perdrait la totalité de la clientèle.
Ah.
Bon. Ceci dit, j'ai divisé en trois parce que la visiteuse, c'était une idée, enfin, de romancier. Mais j'ai pensé que c'était assez curieux qu'une femme arrive un jour à l'improviste dans un cabinet de voyante et lui demande simplement la question qui est très simple, d'écouter, madame, voilà, vous avez une grande réputation. J'ai l'impression d'être mal dans ma peau et j'ai l'impression qu'il y a deux femmes en moi. Il y a une femme qui, extérieurement, c'est une femme élégante, c'est une femme qui a l'air d'être heureuse. Je suis marié, j'ai ceci, bon, etc. Mais je ne suis pas. Qu'est-ce qui se passe en moi? Pourquoi est-ce que je ne suis pas? Et la voyante voit, qui est une vraie voyante, elle dit, mais madame, nous allons voir. Elle commence à sortir les cartes et tout à coup, elle est horrifiée. Parce qu'elle voit que dans la vie de cette femme, elle voit son caractère, elle voit qu'elle est méchante, qu'elle est mauvaise, et qu'elle est maléfique. Elle se sent elle-même gênée par la présence de cette cliente. Et alors, tout à coup, elle lui dit, écoutez, madame, je préfère arrêter, je vous ai reçu parce que vous avez insisté, j'ai beaucoup de monde qui attend, je préfère qu'on fasse ça un autre jour, revenez me voir si vous voulez. Inutile de vous dire, je vous demande rien pour la consultation. Et l'autre lui dit, mais madame, vous n'êtes pas brillante. Vous ne me reverrez pas. Elle dit, madame, ça ne m'est égal, allez trouver quelqu'un d'autre. Quand la femme est partie, il y a une espèce de parfum qu'elle a laissé, cette femme, dans le cabinet de voyance. Et elle a une vieille tante qui est sa marraine, qui l'a élevée, qui reçoit les gens, qui les fait attendre. Elle dit, mais tu sens pas ce parfum bizarre? Et la voyante lui dit, oui, c'est un parfum de mort. La femme qui est entrée sans la mort.
Ah.
Bon. Et nous partons là. Et puis après, elle reprend d'autres clients, et 8 jours après, la femme revient. Et alors, on dit, elle est encore là, la voix. Elle dit, je la reçois. Cette fois-ci, je suis mieux, je suis moins fatigué, je vais la reprendre. Et elle voit que, et la femme lui dit, vous ne m'avez toujours pas répondu à ma question. Je lui dis, écoutez, madame, dites-moi un peu des questions plus précises que vous voudriez savoir. Elle dit, madame, je voudrais vous demander si je serai bientôt veuve. Alors, elle regarde, elle retire le jeu, ce sont les mêmes cartes. Il y a une dame de trèfle, il y a une dame de pique, et il y a une dame de cœur qui est en bas, et qui est toujours en bas. Alors elle dit, écoutez madame, vous avez une rivale. Elle dit, je voudrais bien voir ça, dit la femme. Elle dit, si, vous avez une rivale, parce que madame, vous êtes une femme intéressée, vous avez raison, chacun fait ce qu'il veut, mais vous ne vous rendez pas compte, vous avez une rivale qui, elle, est une véritable amoureuse. Et cette véritable amoureuse... c'est beaucoup plus dangereux qu'une femme intéressée parce qu'une amoureuse va jusqu'au bout. Et elle aime un homme qui est dans votre vie, je ne sais pas si c'est votre mari ou votre amant. Mais peut-être les deux, dit-elle. On dit comment, mais je ne la connais pas. Non, elle arrive, elle n'est pas encore entrée dans votre vie. Mais méfiez-vous d'une véritable amoureuse.
Ah oui, il faut toujours se méfier.
Parce
là.
Que la voyante, tu dis, madame, une véritable amoureuse, c'est très dangereux. L'autre rigole, le besoin de part, bon. Et voilà que la voyante, en ayant marre, part se reposer. C'est la deuxième partie du passé. Elle a une petite bicoque en Sologne, où elle va toujours avec sa vieille tante. Elle arrive, et le soir, dans cette bicoque de Sologne, elle trouve un journal, Jean Jour de France, où il y a les photographies de gens dans une grande réception, et saisie, elle voit que la femme qu'elle a reçue est là, dans les invités d'honneur, avec un monsieur, et ce monsieur a été le fiancé de la voyante quand elle avait 18 ans.
Ah, voilà l'odeur.
Et là, l'odeur commence à lui monter au nez, si on peut dire, et elle se dit, c'est pas possible. Et elle dit, lui que j'ai aidé déjà 2 ou 3 fois avec mes voyances, il est en péril. Une femme qui me demande si elle sera bientôt veuve et dangereuse, elle cherche ça, donc il faut que je l'aide. Elle rentre précipitamment à Paris. D'abord, elle se dit, avant de rentrer, il faut que je revoie tout mon passé. Et on voit l'enfance de cette voyante depuis qu'elle était petite fille, comment elle est devenue peu à peu, elle avait des voyances. Car il y a des gens.
Là, il s'agit vraiment d'une vraie
voyante. Il y a des gens incontestablement, et vous en avez souvent dans les campagnes, on vient trouver qu'ils sont des gens qui ont vraiment des visions. Quand ils voient quelqu'un, ils voient quelqu'un sur lui. Est-ce que c'est un sens de voyance? Est-ce que c'est un autre sens? Mmh. Ils sentent qu'il y a quelque chose autour d'eux, une espèce d'aura qui les gêne ou qui les arrange. Mmh. Et elle se souvient de, et on voit comment ses premières voyances, quand son père est mort d'un accident de voiture, un petit camarade quand elle jouait sur un étang dans une barque, etc. Et à chaque fois, ce qu'elle avait vu s'est produit. Et à la suite de ça, elle est intelligente, on lui a fait passer ses examens, ses bachots, et elle dit, annonce un jour à sa vieille tante qui l'a élevée, dit, moi, je vais être voyante. Elle lui dit, tu es folle, c'est un métier de saltimbanque. Il dit, non, parce qu'à chaque fois, je pourrais aider mes copains et je pourrais aider les gens. Alors, à partir de ce moment-là, il y a eu ce garçon, on voit l'histoire avec ce garçon, et qui a rompu avec elle, quand elle avait, c'est son premier amour, elle avait 18 ans, il en avait 23, c'est un jeune ingénieur, et elle sait que la nuit où elle s'est donnée à lui, elle a vu une amie à elle, qui est amoureuse du même garçon, ça se passe au sport d'hiver, au Mont-Genève, qui est engloutie dans une avalanche. Elle se réveille affolée, elle lui dit « Mais non, elle lui dit, tu es folle, on ne fait pas de ski la nuit. » Le lendemain, l'autre est englouti et meurt. Et le garçon lui en veut à mort de lui avoir prédit ce qui allait se passer. Vous avez compris?
Oui.
Alors il lui en veut à mort, il la quitte. Mmh. Il a peur. Parce que je crois que tout homme, quel qu'il soit, qui dans sa vie a vraiment une femme qui a un don de voyance, hésite. Il hésite à épouser cette femme et l'avoir dans sa vie. Je dirais même dans le côté vaudeville, vous comprenez que si une femme est voyante et qu'elle voit que son mari la trompe, la vie sera pas possible.
Certainement.
Hein? Bon, et des petits détails idiots. Ouais. Alors, elle est très mortifiée de ça, elle s'est donnée vraiment avec amour, et elle l'a plus revue. Et voilà qu'elle le voit retomber sur le journal, mariée avec cette femme qui lui demande si elle est bientôt veuve. Elle dit, maintenant il faut que je lève.
Il faut.
Voilà
il faut,
le départ, vous comprenez.
C'est formidable tout, il faut ça, que tout ce que vous me racontez.
Alors là, vous voyez, et on s'aperçoit, et c'est peut-être, enfin, on a fait beaucoup de romans dans le monde, moi le premier, et on s'aperçoit que ce type a lui aussi une double vie. Il est ingénieur, mais il est agent d'un office privé qui s'occupe notamment, pour le gouvernement français, ne dirons pas que c'est une espèce de service de renseignement, mais c'est pas loin d'une CIA, et il s'occupe de problèmes pétroliers et autres. Et elle voit qu'il a une double vie. Elle arrive à le joindre. Elle le revoit, et elle lui dit, écoute, tu as une double vie, et tu ne m'as jamais raconté. Il dit, oui, bah écoute, tu es une vieille copine, oui, ben voilà. Et peu à peu, quand il est parti, elle se lance. Et là, elle prend la boule de cristal. C'est travailler entièrement, c'est le travail total du métier.
Ah, voilà.
Et elle voit, avec tous les moyens qu'elle emploie pour elle seule le soir. Et elle voit qu'il y a un danger imminent qui tient. Et elle comprend que la femme qu'il a, qui est sa femme, est un agent des adversaires qui sont les Allemands de l'Est.
Le monsieur qui vous raconte tout ça, c'est monsieur Guy Descartes. Vous êtes sur Radio Andorre en compagnie d'Hervé Villard. Et voici Billy Joel.
Search for tenderness, it isn't hard to find. You can have the love you need to live. But if you look for truthfulness, you might just as well be blind. It always seems to be so hard to give.
sympathize if I wear my heart out on my sleeve. But I don't want some pretty face to tell me pretty lies. All I want is someone to believe.
Monsieur Descartes, vous aimez la chanson ?
Beaucoup. J'aime la chanson et j'aime les vraies chansons.
Les vraies chansons d'amour, les chansons pour
j'aime,
vous sont
je vais vous dire, je ne crois pas qu'il y ait au fond une très bonne chanson s'il n'y a pas une note d'amour. Je reproche peut-être un peu aux chansons actuelles. On a fait un, vous savez, quand les gens de ma génération disaient qu'on entendait des chefs-d'œuvre dans notre jeunesse, depuis les poètes, est-ce que les artichauts sont froids sont meilleurs que chauds ? Faut pas exagérer. Mais la chanson d'amour a toujours tenu, parce que il se passe quelque chose. Il y a eu des vieilles chansons qui paraissaient incroyables, vous comprenez, comme ces chansons que chantait Berthe Silva. Ben Berthe Silva, un directeur de pâté, m'a dit que pendant des années, elle a tenu, même n'étant plus chanteuse et même, je crois, morte, parce qu'il y avait une mélodie d'amour. Et vous remarquerez une chose qui est curieuse. On dit quand le bâtiment va, tout va. Autrefois, avant qu'il y ait toute l'ère du disque et toutes ces combinaisons et les maisons de disques et tout ça qui sont très valables et qui sont une nouvelle forme d'exploitation de la chanson ou des artistes.
Comme les maisons d'édition pour la...
Pour les maisons d'édition, c'est
pour
pareil.
La littérature.
On entendait, quand il y avait un tube, ce qu'on appelle un tube sorti, eh bien, sur les bâtiments et les peintres, notamment les peintres chantaient. Les peintres chantaient toujours. Ils étaient chiants, ils sifflaient. On était empoisonnés quand on avait des peintres chez soi.
Eh bien, écoutez, eh bien,
ils sifflaient. Oui. Maintenant, ils ne sifflent plus car ils n'ont plus des paroles d'amour dans leurs chansons.
Eh bien, écoutez, je vous en offre une. J'ai écrit cette chanson. C'est une chanson d'amour. Je l'ai écrite avec Monsieur Jacques Revaux. Il a fait la musique. J'ai fait les paroles. Elle s'appelle J'ai mal, je t'aime. Et je vous garantis que c'est une vraie chanson d'amour.
Eh bien, voilà.
Moi,
me revoilà. J'ai pleuré des années, pourtant c'est moi, c'est moi qui suis devant toi, en peau de chagrin. Je ne changerai rien. J'ai mal sans tes colères. J'ai mal, pourtant je suis heureux comme ça. Je ne pourrai jamais vivre sans le mal de toi. Écoute bien les cris de ma prière. Ils te parlent d'amour et d'avenir. J'ai mal, je t'aime et je suis sur la terre. Qu'on abandonne, c'est toi qui fais si bien courir les hommes. Oh, dis, sais-tu pourquoi je prie? J'aime ce chemin de croix, qu'il ne s'arrête pas. Le mal que tu me donnes, sur ta peau nous font du bien. Et puis tout le mal qu'il faut pour détacher nos mains. Écoute bien les cris de ma prière. Il te parle d'amour et d'avenir. J'ai mal, je t'aime et je suis sur la terre.
Monsieur Descartes, vous êtes un Parisien, mais un vrai Parisien. Vous êtes né à Paris.
Je suis né à Paris.
Alors, j'aimerais que vous me parliez un petit peu de la vie parisienne, tout ça. Un petit peu, on va changer un petit peu de sujet, puis après on reviendra.
Ben, moi, je vais vous dire, moi, à mon âge, je suis un vieux Parisien, mais j'étais un jeune Parisien.
Mais un moi, jeune Parisien.
Le Paris, de, pour moi, de votre âge.
Oui. Moi, je suis né après la guerre, hein, en 1940.
Oui, moi, je suis né avant 14. Alors, on peut discuter tous les deux quand même.
Voilà.
Alors, eh bien, ma petite enfance, moi, c'était... Mon enfance, c'était la guerre de 14. Et j'ai vu... je sais pas si beaucoup de gens l'ont vu. D'abord, j'habitais dans la même maison que Guynemer.
Ah.
Ça vous paraît une blague, mais je vais vous raconter quelque chose qui est assez curieux. J'habitais rue Greuze, et Guynemer n'avait plus son père, il habitait avec sa mère et sa sœur. Et Guynemer, pendant la guerre de 14, c'était le héros fabuleux. Il y avait ce qu'on appelle, il n'y avait pas la radio, il n'y avait pas la télé, il y avait le communiqué de 3 heures qu'on donnait au téléphone. Mmh. Et à 3 heures, tout le monde prenait le communiqué de guerre qu'on transmettait. On disait, les Allemands ont foncé tel front, mais les Français ceci, on tenait le moral. Ça avait été une invention de Gallieni. Il avait raison, parce que les Parisiens étaient au courant de rien. Et Guynemer arrivait tous les samedis, Il était dans le nord, là, au camp de l'escadrille des Cigognes, dans une petite voiture blanche. Je me souviens la marque, c'était une Zèbre. Et alors, moi, j'avais à ce moment-là 6 ans, et mon frère, qui est mort, avait 8 ans, et il y avait le fils de la concierge, s'appelait Lepeu, qui avait 7 ans. Avec 3 galopins de l'immeuble, on attendait l'arrivée de Guynemer, et pendant la semaine, on entendait lundi, mardi, Guynemer a battu 1 avion, 2 avions, 3 avions, c'était le héros, c'était le paladin. Alors, quand on voyait arriver le paladin, toute la rue, tous les gens étaient à la rue pour arriver Guynemer, qui arrivait dans sa petite voiture blanche qui pétouillait, et sa mère et sa sœur habitaient au rez-de-chaussée de cet immeuble. Il était très jeune, Guynemer. N'oubliez pas qu'il est mort à 23 ans et ayant eu 64 palmes d'or.
Palmes d'or ?
Oui, d'or. Palmes d'or sur sa croix de guerre. Hein.
Ah oui. Ah oui, c'est, la palme d'or aujourd'hui signifie...
Et il est mort en 17. Bon. Alors, un jour, Guynemer, je crois que je vais vous dire, est assez curieux. Et je ne crois pas que beaucoup de gens au monde puissent vous le raconter, parce qu'ils ne l'ont pas vécu. Alors, nous, avec le fils à concierge, on attend Guynemer, et comme il nous connaissait, il dit « Allez, montez !» Alors, on montait dans la petite voiture. Moi, je n'ai pas de voiture pendant la guerre de 14. On s'empilait là-dedans. C'était la rue Greuze. On prenait la rue des Sablons. On arrivait sur la place qui est devenue place du Mexique, qui s'appelait place d'Elo à ce moment-là. Ils nous faisaient faire l'avenue d'Elo, la place du Trocadéro. On prenait le début de l'avenue Mandel, qui s'appelait Henri Martin, jusqu'au Trocadéro. On reprenait et on faisait notre tour dans la voiture blanche de monsieur, de Guynemer.
Et le Paris d'aujourd'hui, alors?
Mais attendez, je vous finis, ah oui, Guynemer.
J'aimerais que vous me parliez du
Paris
d'aujourd'hui.
Mais c'est un parrain de la guerre, bon. Eh bien, Guynemer, il nous descendait. Et cette voiture est au musée de Compiègne. J'ai un fils qui est journaliste, que j'aime beaucoup, qui est au Figaro maintenant. Et un jour, il était petit, j'ai dit, regarde cette bagnole, je suis monté dedans. Ben ça, c'est assez fantastique. Quant au Parisien d'après, alors le Paris d'après, j'ai grandi. Alors ça a été le Paris de la douceur de vivre après la guerre de 14. Parce qu'on avait l'impression d'avoir gagné une guerre. On ne sait jamais qui gagne les guerres, finalement. Et qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui, les Allemands en principe l'ont perdu, les Japonais, ce sont eux qui nous tiennent la dragée haute à tout le monde. Les seuls qui au fond gagné la guerre ont été les Anglais, ils ont été ruinés. C'est curieux, qui gagnent la guerre et qui les perdent. Donc les guerres, je suis assez anti-guerre. Mais néanmoins, alors ce Paris-là, c'était la chambre de l'horizon, tout le monde vivait la belle vie. C'est le moment où Volterra a construit son casino de Paris, où les boîtes de nuit sont nées, est arrivé derrière le Charleston, la revue nègre du Théâtre des Champs-Élysées, etc. Bon, et c'est le moment où les femmes ont commencé à se faire couper les cheveux, il y a eu la chanson, elle s'était fait couper les cheveux.
Elle s'était fait couper voilà. Les cheveux.
Alors à ce moment-là, il y avait encore un Paris qui n'est plus là, qui était un Paris, j'allais dire, des demi-mondaines. Ces demi-mondaines habitaient plutôt du côté, dans le 17e. Tous ces petits hôtels particuliers que vous voyez étaient des dames qui tenaient, j'allais dire, cabinet particulier, qui recevaient, qui étaient des dames, et qui allaient en général, pour leurs dessous féminins, s'approvisionner rue Tronchet, qui était la rue des dessous, la rue des colifichets. C'était pas encore les badims ni les collants, n'est-ce pas? Et alors, les gens qui avaient des maîtresses qu'ils entretenaient, habitaient sur la rue gauche, et quand leur femme savait qu'elles avaient des liaisons, elle dit « Comment s'habite-t-elle ? » Alors toutes les bourgeoises et toutes les dames allaient aussi rue Tronchet pour aller dans les mêmes boutiques.
Oui, alors je voudrais ouvrir une parenthèse là. Est-ce que vous regrettez ces fameuses maisons, ces maisons closes ?
Ah, je les regrette infiniment parce qu'elles amenaient une poésie extraordinaire. C'était moins misérable. Et encore ça, à Paris, c'était une grande ville. Mais par exemple, quand j'étais à Saumur, officier de cavalerie, celui qui n'a pas connu le bordel de l'école de cavalerie de Saumur ne sait pas ce que c'est que ça.
Voilà. Et aujourd'hui, les bordels d'aujourd'hui, alors ils sont comment?
Mais il n'y en a plus. Ah. Quoi, ils sont clandestins, là, ils étaient officiels. Même dans les quartiers, quand vous voyez dans des quartiers soi-disant pourris ou sur des ports, des lanternes rouges, ça avait une poésie extraordinaire. Et tout se passait très bien. Vous aviez des femmes extraordinaires là-dedans. Il y a eu des grands artistes. Tenez, j'ai un vieillon qui est mort maintenant et qui avait été fait prisonnier aux Dardanelles pendant la guerre de 14. Et il y avait une artiste qui s'appelait Fréhel, une immense bonne femme. Et Fréhel, mais Fréhel était à Constantinople quand la guerre est arrivée. Mmh. Elle a été bouclée. Alors les Turcs ont dit, oh ben les Françaises, et ça, on va les foutre dans une maison de rendez-vous, elles seront tranquilles. Mmh. Et on a envoyé les officiers français là-dedans, le jeu là-dedans, on s'est dit, ils vont se retrouver en famille. Et il m'a raconté, il était très jeune à ce moment-là, que il a dormi, et moi je trouve que moi ça ne m'est pas arrivé, il a dormi, elle était très belle, sur les seins de Fréhel. Eh ben, c'est assez extraordinaire, on privait
Fréhel. Alors, à Paris, voilà, à Paris aujourd'hui, qui a des seins comme ça?
Oh, il y a encore des tas de seins. Il y a encore des tas de seins, ne n'attaquons pas les femmes. Notez bien que dernièrement, il y a quelques années, j'ai publié un livre sur le l'insolence. Non, c'était le. L'insolence de sa beauté, oui. Et alors, c'était l'histoire d'une femme laide qui se faisait tout changer pour devenir belle. Et puis, ce livre est sorti. Je veux dire qu'il a eu pas mal de lecteurs. Et un jour, j'ai reçu une lettre fabuleuse du duc de Lévis-Mirepoix, qui a 96 ans aujourd'hui, qui est le doyen de l'Académie française, qui est un homme merveilleux, merveilleux, qui m'a envoyé une lettre de 4 pages en me disant « Je m'insurge, mon cher Guy, contre votre chirurgien, parce qu'il a voulu raboter les seins de votre héroïne. Il a eu tort. Vive ses seins. Vive ces seins qui sont la chaleur dont nous les hommes nous avons besoin. Vive les seins. » Enfin, j'ai un éloge formidable, une lettre de 4 pages du duc de Lévis-Mirepoix, qui est un grand historien sur les seins des femmes françaises.
Vous n'avez pas voulu me parler du Paris d'aujourd'hui, monsieur Descartes, mais je voudrais vous remercier quand même d'être venu, parce que vous êtes un merveilleux conteur, un merveilleux écrivain. Je vous en remercie pour moi, pour les autres, et que ça continue, que ça marche. Bravo, monsieur Descartes.
Souhaitons-le.
Oui.
Pour vous aussi.
On va y aller. Je vous offre Julien Clerc.
Ça commence comme un rêve d'enfant. On croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. Toi et moi, on s'en va regarder le soleil sous les branches et puis parler de toi. Si tout change et change, il y aura des étés pour toi et pour moi, tu verras. Ça ressemble à un rêve d'enfant, on croit que c'est dimanche et que c'est le printemps. La radio donne enfin des nouvelles, nouvelles, et nous parle enfin un peu de toi. Si tout change et change, il y aura des étés pour toi et pour moi, tu verras. C'est dimanche et que c'est le printemps.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.
Monsieur Descartes, j'ai pas du tout envie que vous partiez. Finalement, vous allez rester dans cette dernière heure, si vous le voulez bien.
Oh, mais moi, je suis très bien.
Et puis, je vais vous poser encore quelques questions.
Oui. Mais d'accord. Je répondrai.
Merci. Alors, monsieur Descartes, je vous ai posé une question tout à l'heure. Que pensez-vous de la chanson? C'est une grande question. En principe, j'aimerais que vous me parliez des jeunes. C'est-à-dire, comment voyez-vous un jeune chanteur qui débute aujourd'hui? Vous savez que c'est difficile pour un jeune chanteur de débuter dans la chanson aujourd'hui. Je parlais en début d'émission, je disais que les hit parades étaient de bois. Alors, on va entendre une jeune fille. Vous allez écouter ce disque attentivement. Elle s'appelle Patricia Lavilla. Elle a débuté dans ce métier, je crois qu'elle devait avoir entre 15 et 16 ans. Aujourd'hui, elle en a 22. Elle chante de mieux en mieux. Elle est devenue une femme. Hein. Et elle a quand même aujourd'hui beaucoup de difficultés parce que on dit qu'elle a déjà un passé et qu'elle n'est plus celle qu'elle était hier. Je vous demande de l'écouter attentivement. On en parlera plus tard.
Thank you.
Patricia Lavilla, vous êtes sur Radio Andorre en compagnie de Monsieur Guy Descartes et Hervé Villard, encore pendant une heure. Alors, vous avez écouté ce disque, Patricia Lavilla.
Eh bien, Patricia, je vais lui dire qu'elle a beaucoup de talent. Je l'appelle par son prénom. Même chose qui me gêne dans cette émission, il m'appelait tout le temps Monsieur. Je dis pas Monsieur, ça fait très vieux Monsieur. Ça a l'air d'un respect des jeunes générations pour les anciennes. Vous m'appellerez Guy Descartes, les gens me connaissent. Et il faut pas chercher à être un monsieur quand on
non,
vous
je vais
parle.
Vous appeler Guy Descartes maintenant. Voilà. Même Guy à la limite.
Ouais, si Guy, vous si vous, ça ne me gêne pas du
vous
tout.
Vous savez, moi je vais vous raconter.
Ça me rajeunit.
J'ai été élevé dans le Berry, dans des familles paysannes, où on vivait encore à l'époque napoléonienne. Et je me souviens que ces gens qui m'ont élevé m'ont appris à dire bonjour et monsieur. C'est-à-dire que chaque fois que je croisais sur le chemin de l'école quelqu'un, je devais saluer cette personne. Et j'ai gardé ça en moi et finalement ça ne me déplaît pas. Voyez. Alors si vous préférez que je vous appelle Guy, je vais vous appeler Guy.
Je vais vous dire.
Guy Descartes.
La première heure, on s'est trouvé. La deuxième, on se connaît mieux. Alors c'est plus détendu. La troisième. Monsieur Nathan, vous avez raison, parce que maintenant, les gens ne saluent plus personne. Vous avez de bons principes et gardez-les. C'est comme ça que les rapports sont plus agréables. Néanmoins, quand on est dans des métiers comme le vôtre ou le mien, ce sont des vocations. Vous avez voulu chanter, moi j'ai voulu écrire, un autre a voulu peindre. Je crois qu'on est un peu du même bord.
Oui, c'est certain. Hein ?
Nous sommes de ces parias de la civilisation qui vendons du rêve et la distraction. Ces gens-là, les pouvoirs publics se foutent un peu de nous, nous ne sommes pas intéressants, nous n'en présentons pas des masses d'électeurs, mais moi je représente des lecteurs. Et je suis persuadé qu'à moi seul comme auteur, j'ai plus de lecteurs, que les différents partis politiques n'ont d'électeurs. Alors, ceci dit, vous amenez la chanson. Et moi je voudrais vous parler de la chanson et de vous. Vous êtes jeune. Vous êtes un gars qui tenait très bien le coup, vous irez très loin, c'est mon opinion, et je trouve qu'il y a une chose qu'on ne dit jamais, c'est de la façon de faire une chanson et d'interpréter une chanson. On n'en parle jamais, ça. On écoute les gens, bon. Alors pour moi, d'abord, une chanson. Une chanson, si nous la comparons à mon métier d'écrivain, c'est un conte. Vous comprenez ? Ça le raccourcit d'un conte et c'est pour ça que c'est très difficile de faire une bonne chanson. Il y a des chansons qu'on vous apporte, vous les essayez, mais je suis persuadé que dans la fabrication, parce que c'est un travail d'une chanson, parce que en général, souvent des compositeurs font les paroles de leurs chansons, ce qui est très bien. Autrefois, c'était pas le cas. Il y avait des gens qui faisaient des paroles et d'autres qui mettaient de la musique dessous, ou le contraire. On prenait un air, on mettait une chanson. Aujourd'hui, ils veulent tout faire, ce qui est pas mal, ce qui est bien, mais qui peut-être ne donne pas toujours le résultat escompté. Je connais des très bons compositeurs actuels qui ne savent pas faire leurs paroles. et nous connaissons des paroliers qui ne savent pas construire, écrire de la musique.
Puis vous avez des compositeurs qui ne savent pas chanter, qui chantent quand même.
Ah oui, ça,
c'est pour ça que finalement, il y a un problème. Mais finalement, moi, vous savez, je n'ai jamais chanté une chanson que je ne sentais pas. Parce que j'essaie de chanter avec mon cœur et mon ventre. Et si ça ne me sort pas des entrailles, je n'y arrive pas. Alors, chacun fait ce qu'il veut dans ce métier, chacun... Hein, il y a des écrivains qui écrivent des livres et ils ne sont pas persuadés de ce qu'ils racontent.
Non. Hein,
vous le savez très bien.
Oui.
Alors, je voudrais qu'on parle un petit peu moins dans cette heure-là. Je voudrais qu'on passe un maximum de musique parce que les gens nous écoutent et je vais vous offrir une chose. Je vais vous offrir, à mon avis, le king, comme on dit, c'est-à-dire le roi. Parce que c'est pour moi le roi, c'est Johnny Hallyday. Et je vais même vous offrir deux chansons. On va commencer par la première, elle s'appelle « De l'autre côté de la rivière » et ensuite on entendra « Enchaîner, s'il vous plaît, elle m'oublie ».
T'as une voiture comme dans les films, on dirait que la chance est au bout de tes phares. On parle de toi dans la ville, tu avais la beauté, il te fallait la gloire. On pourrait bien se téléphoner, histoire de parler du temps passé, mais tu sais bien, on ne vit pas du même côté de la rivière. Ni toi ni moi, on ne revient pas en arrière. De la barrière, c'est mieux comme ça, chacun sa vie, chacun sa guerre. A bien changé depuis l'école, quand tu rêvais de vivre toute seule sur un voilier. T'avais toujours des idées folles, à faire des ronds dans l'eau, le temps est vite passé. On était vraiment si bien ensemble, c'est fou comme l'ambition te ressemble. Mais tu sais bien, on ne vit pas du même côté de la rivière. Ni toi ni moi, on ne revient pas en arrière. On ne vit pas du même côté de la barrière. C'est mieux comme ça, chacun sa vie, chacun sa guerre. Ta photo dans les magazines et ton sourire forcé aux millions de lecteurs. Y a des jours où je me demande qui de nous est l'artiste, qui de nous est l'acteur. On ne vit pas du même côté de la rivière. Ni toi ni moi, on ne revient pas en arrière. On ne vit pas du même côté de la barrière. C'est mieux comme ça, chacun sa vie, chacun sa guerre. On ne vit pas du même côté de la rivière. Ni toi ni moi, on ne revient pas en arrière. On
alors qu'il est, je sais qu'il est déjà trop tard. Elle aura sûrement pris le premier autocar. Et sur la nationale, sur les bords de la Loire, elle voit des paysages, se raconte des histoires. Elle m'oublie, elle m'oublie, elle m'oublie. Ses cheveux blonds serrés dans un chignon mal fait. Elle pense à Dieu, c'est quoi? Le soleil disparaît. Et la nuit va venir, le chauffeur fatigué cherche un vieux restaurant et elle voudra dîner. Elle m'oublie.
D'écart, c'était Johnny Hallyday. Voyez, lui, il lui arrive de chanter des chansons tendres. Il a parfois beaucoup de succès. Moi, je chante parfois du rock'n'roll. J'ai aucun succès quand je chante du rock'n'roll.
Ça m'étonne pas, vous êtes un romantique.
Il y a rien à faire. Mais enfin, ça m'amuse quand même. Je le fais pour m'amuser. Je le fais rarement en public parce que finalement, ils viennent pas pour ça, les gens. Dites-moi, Guy Descartes, vous avez bien connu Fernand Reynaud, parce que ça fait partie aussi de notre métier du musical.
Ah oui, moi j'ai un souvenir avec Fernand Reynaud, nous étions à Liège, tous les deux en même temps. Moi, c'est une conférence en signature, et lui était y passé dans un théâtre de la ville. C'était au moment où il y avait une foire à Liège, et on s'est retrouvés le soir, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, on va à la foire. On est parti à la foire. Et nous avons fait une partie d'auto-tamponneuse avec Fernand Reynaud.
Vous avez fait la foire, quoi.
Oui, et bien on a été heureux. Moi, c'est le cas de le dire, on a été très heureux.
Heureux. Je suis le cantonnier des chemins vicinaux. Bon, moi, je suis pas le cantonnier des autoroutes, ni des autostrades. Moi, je suis le petit cantonnier, vous avez peut-être vu... dans les hautes montagnes, dans mon fossé, appuyé sur ma faux. Quand il pleut, je travaille pas. Quand il y a de la neige, je scie du bois. Heureux. Il y en a qui tiennent le haut du pavé, moi je tiens le bas du fossé. Heureux. Je suis payé au mois. Je paye pas de loyer parce que ma femme est la concierge de l'école. Heureux. Quand j'ai fini ma journée vers les 4h30 de l'après-midi, il y en a, quand ils ont fini leur boulot, ils prennent le métro où ils attendent l'autobus. Moi, je rentre en sifflotant. C'est bien rare si dans mon panier, j'ai pas quelques champignons, des amandes sauvages, des noix, ou bien des érelles. Les érelles, vous, à Paris, vous savez pas ce que c'est. C'est un fruit très délicat. Ça pousse sous les sapins. C'est très fin comme goût. Vous ne pouvez pas en manger à Paris parce que ça ne supporte pas le voyage. Alors, c'est bon pour les cantonniers. Heureux. Il n'y a qu'un seul jour où je m'ennuie dans la vie, c'est lorsque je suis obligé d'aller à Paris, une fois par an, parce qu'on a une tante qui invite tous ses neveux. Mon premier cousin Germain, il n'a pas eu de chance, lui, dans la vie. Non, non. Il n'a pas pu être cantonnier parce qu'il a réussi à tous ses examens. Alors, il est devenu chef d'entreprise. Il a 700 employés. Quel est le mot qui revient toujours dans sa conversation? Il y a un mot qui revient tout le temps. Il parle tout le temps et tout le temps. Moi, j'écoute. Ah oui, ah oui. Impôt. Impôt. Qu'est-ce que ça veut dire, impôt? J'en ai parlé à mon petit copain. C'est le patron du café au Joyeux Corps de Chasse. C'est à la sortie du village, juste à l'orée du bois. Il m'a dit impôt. Peut-être qu'il pense qu'à boire à Paris. Alors on a bu un pot. Mon deuxième cousin Germain, c'est le comique de la famille. Qu'est-ce qui me fait rire quand il cause? Mais j'ose pas rire devant lui parce que c'est vexant. Vous savez, quand quelqu'un cause et puis que l'autre rigole, c'est vexant. Il est professeur de philosophie. Il passe sa vie à étudier ce que les autres pensent. Il passe des nuits entières. Qu'est-ce que c'est? Je vais essayer de l'apprendre par cœur tellement que ça m'a fait rire. Il disserte le rapport qu'il y a entre la pensée de Blaise Pascal qui a dit « La vie est misérablement courte » par rapport à la théorie d'Einstein qui a dit « Plus on va vite, plus le temps est court ». Des nuits entières, et moi pendant ce temps, la nuit, je dors. Ouais. Il n'y a pas que des professeurs de philosophie dans la vie. Il y a des gens qui ont des professions utiles. Mon troisième cousin Germain, c'est le toubib.
Plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Tu viens de décider. Nous n'irons plus jamais. Ce soir c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Capri, c'est fini. C'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons, mais je perds le courage, sachant que tu diras non. Premier amour, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai
premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retourne avec un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh,
voilà, c'était ma première chanson. Je vous rappelle que vous êtes sur Radio Andorre avec Monsieur Guy Descartes. Je peux pas m'en empêcher, excusez-moi.
Bon.
Avec Guy Descartes et Hervé Villard. Je vous ai offert cette chanson, Guy. Expliquez-moi. Vous savez, à chaque fois que je rencontre quelqu'un dans la rue, il me parle de Capri, c'est fini, et j'en suis ravi, parce qu'on a toujours l'impression que je hais cette chanson parce qu'elle m'a fait du mal. Moi, je considère qu'elle m'a fait du bien, qu'elle m'a apporté beaucoup de choses dans la vie, étant donné que je n'avais rien, ça a été... Tout d'un coup, c'est venu mon passeport, ma carte d'identité, enfin, j'ai connu, j'ai fait deux fois le tour du monde grâce à cette chanson. Si... Vous avez une histoire, vous, avec Capri, c'est fini ?
Non, Capri, c'est fini, je l'ai entendu comme tout le monde, mais je vais vous dire, c'est merveilleux d'avoir un grand succès comme ça au départ d'une carrière, mais il faut s'en évader. Et c'est ce qui est difficile. Madame Colette, on peut l'appeler Madame, celle-là, m'a dit quand j'ai publié mon premier livre en 41, qui s'appelait L'Officier son nom, je vous assure que ce fut l'équivalent de chanson de votre Capri, son premier roman. Elle m'a dit, c'est très bien, avec son accent bourguignon, c'est très bien. Mais souviens-toi qu'il faut faire au moins 10 livres comme ça et pas le même. Il faut en sortir et après, tu cesseras d'être l'auteur de L'Officier son nom et tu deviendras Guy Descartes. Vous en êtes sorti, vous avez été l'auteur de Capri, vous le ramenez parce que ça ramène notre jeunesse et tous ceux qui vous connaissent, mais vous êtes devenu aujourd'hui Hervé Villard. C'est très dangereux d'avoir un très grand succès au départ, c'est l'histoire des prix Goncourt. On leur donne un prix Goncourt et après ils font plus rien.
C'est comme les chanteurs pour l'Eurovision.
C'est comme les chanteurs pour l'Eurovision, vous comprenez? Alors je crois que l'artiste, celui qui l'est dans l'âme comme vous, enfin, je peux me tromper, mais je pense que l'écrivain, nous sommes pas loin, nous sommes sur la même longueur d'onde, doit sortir de ça et prouver qu'il a son talent en lui, qui est varié, qui reste dans ses lignes, qui reste dans son expérience, dans son amour du métier du chant, mais changer d'histoire. Faut jamais raconter la même histoire. Les écrivains qui ont raconté la même histoire, donc une fois, deux fois, ou qui se sont racontés eux-mêmes, vous savez, le moi est haïssable. Et il faut surtout oublier le moi, il faut penser aux autres.
Ah ben c'est pour ça qu'on fait ce métier.
Eh bien voilà, mais vous, si vous nous amenez, et comme vous le faites en ce moment, la chanson avec ce que vous avez envie de donner chaque année, vous ramenez vos succès qu'on vous réclamera, vous comprenez? Prenez une femme qui était une grande chanteuse comique, qui était Marie Dubas.
Oui.
Eh bien Marie Dubas était une des plus grandes chanteuses comiques du monde.
Oui.
Hein? Eh bien Marie Dubas, on lui réclamait toujours, elle passait à l'Empire dans ma jeunesse et tout, elle amenait les chansons. Hein?
Pedro.
On lui réclamait Pedro.
Oui.
Et puis un jour, elle a eu l'idée de sortir le Doux Caboulot de Carco.
Une merveille.
Et oui, qui est une merveille. Et elle a fait un tabac. Alors après, on lui a réclamé le Doux Caboulot. Et après, du moment où on vous réclame sur un acteur, on voit qu'il y a 4-5 trucs qui ont été à des époques différentes, vous êtes, elle était Marie Dubas, comme vous devenez Hervé Villard. Il faut vous évader, il faut rester, il faut vous créer un nom, et vous créer votre prénom sur les chansons. On ne sait plus, certains, les générations qui arrivent à ce que vous avez écrit, m'ont dit, c'est Hervé Villard, c'est pas l'homme de telle chose.
Voilà, ça c'est important. Alors je vous offre Chek, qui est un jeune chanteur et qui nous chante Soleil puisqu'on est en vacances.
Qui vient vers moi va dormir près de
et soleil par chèque. C'est circonstance tout ça. Guy Descartes, vous aimez la musique anglo-saxonne ?
Oui, je la connais bien. Ça vous paraît idiot parce que tout m'a intéressé. Et ils ont d'excellentes choses. Ils ont surtout des très bonnes mélodies. Mais ils ont une veine. On parlait de la chanson dans la chanson anglo-saxonne. On ne le dit jamais non plus ça. Moi, je vous le dis en tant qu'auditeur. C'est que quand vous avez des paroles anglaises,
oui.
L'anglais permet énormément de choses.
C'est vrai que c'est plus facile pour un chanteur de chanter en anglais qu'en français.
Et les lyrics anglais sont faciles. La preuve, c'est quand on veut adapter une comédie musicale américaine ou anglo-saxonne en France, c'est très difficile parce que nous sommes tenus à la métrique, nous sommes tenus au rythme, nous sommes tenus... Eux, ils s'en fichent. Vous comprenez ?
Oui.
L'article les gêne pas du tout pour commencer.
C'est
déjà une langue extraordinaire. Mais c'est... Il y a trois langues essentielles de chant. Si vous voulez chanter des grands leads ou des machins, ben prenez l'allemand.
Oui.
Un Wagner. Si vous voulez chanter peut-être des mélodies d'amour et tout, il y a l'italien.
Mm-hmm.
Et vous avez l'anglais qui permet absolument tout.
C'est vrai.
C'est une langue qui est une synthèse, ce n'est pas une analyse. Mm. Chez nous, nous sommes gênés par certaines règles et on dépayserait, je pense, les gens, je crois même les gens actuels, les jeunes auditeurs actuels, si on ne respecte pas certaines lois de la langue française. Mais il est certain que la plupart des chansons anglo-saxonnes, quand vous les donnez en anglais... Mm. Passe, et quelquefois, quand vous les donnez en français, les paroles les flanquent en l'air.
Oui, c'est ça. Alors, écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, on écoute beaucoup les Bee Gees.
Oui.
Alors, ils ont adapté une espèce de vieux rythme, parce que moi, je ne crois pas que le disco, vous savez, la musique disco soit quelque chose de complètement nouveau. Je pense que c'est un mélange de musique, de rythme, disons, sud-américain, afro-cubain, avec la technique moderne, c'est-à-dire un petit peu. Mais je voudrais vous faire entendre un groupe qui n'est pas disco et qui est, à mon avis, le groupe, à mon avis, hein, le plus intéressant actuellement. Il s'appelle Supertramp.
Oui, oui.
Vous allez voir.
In my life today, unfamiliar is it? Slam the door.
Ça, c'était une super trempe. C'est vraiment une super trempe. Et une bonne trempe, dans le bon sens. Hein. Je veux dire, vous vous rendez compte, Guy Descartes, le progrès, ce que la technique a pu apporter à la musique?
Oui, mais moi, je fais une petite réserve.
Ah.
Bon. Les orchestrations sont tellement fignolées, tellement bien faites, que mon Dieu, on arrive à ce que certains artistes qui sont très estimables ont un filet de voix. Il ne s'agit pas d'avoir la voix aujourd'hui, ça reviendra peut-être un jour. Que l'orchestration couvre tout. Vous savez, on a l'impression que le violon alto termine la phrase. Et c'était pas tant, si vous voulez, pour certains. Mais quand on trouve ces artistes sur la scène, qu'on les a en face de soi. Eh bien, qu'on les a entendus, qu'on les a vus, on est quelquefois déçus.
Oui, mais vous ne devez pas parler des mêmes, parce que regardez, pour moi, le groupe dont on vient d'entendre un extrait,
c'est autre chose.
Ce n'est pas un chanteur. C'est de la musique avant tout.
Oui.
C'est-à-dire, bon, les paroles sont toujours très intéressantes.
Non, mais leur musique à eux est très bien, ils la font même. Mais je vous dis que j'ai entendu, on fait des trucs avec des orchestrations absolument formidables. J'ai vu enregistrer un jour dans un studio de Barclay, je ne sais plus qui, il y avait 30 musiciens derrière, c'était inimaginable.
Voilà, mais si, par exemple, pour un chanteur, je crois que la règle doit être la suivante, c'est-à-dire qu'il faut mettre la technique à son service et non être au service de la technique.
Oui.
Pour un groupe comme les Beatles ou Supertramp, je crois qu'ils sont malgré tout au service de la technique. Et ils doivent reproduire ça sur scène, c'est-à-dire que si on n'écoute pas, ils n'arrivent pas à reproduire sur scène ce qu'ils ont fait en studio, on est déçu, c'est vrai. Parce que ce sont les gens qui écoutent de la musique telle que celle-ci, et j'en fais partie, aujourd'hui sont vraiment des faves, comme on dit, si vous voulez.
Hein. Oui,
ce
oui.
sont de vrais amateurs.
Oui, oui.
Hein. Alors, c'est différent. Il ne faut pas confondre musique et chanteur, à mon avis. Un chanteur est là pour s'exprimer, pour parler, pour chanter des chansons d'amour, finalement. Il n'est pas là, à mon avis, c'est bon. Ça n'engage encore une fois que moi, pour parler, pour dire que le monde va mal et que tout va s'écrouler. Je crois que ça n'a d'intérêt pour personne. Les politiciens sont là pour ça et nous rabâchent les oreilles à longueur d'année. Donc, ce que je voulais vous faire découvrir. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté Supertramp, mais c'est cette,
non, c'est très bien.
C'est prodigieux. Oui, c'est oui. prodigieux. Alors oui. on nous parle de Wagner. Bon, ben, Wagner, c'était hier, mais oui. aujourd'hui, il y a Supertramp. Vous comprenez? Et oui. ça, c'est très important. Alors, je m'engage en disant ça seulement pour la musique. Hein.
Mais moi, je voudrais.
Mais ce que je voudrais, c'est votre avis mais je personnel vous là-dessus.
Par exemple, je pourrais pas répondre par mon boulot, mon métier. Quand j'écris, hein, oui. la ligne mélodique, c'est l'histoire. Bon, si vous voulez, l'orchestration, c'est la ponctuation.
Oui.
Et il faut éviter que la ponctuation n'écrase la mélodie, c'est-à-dire l'histoire. L'orchestration, vous comprenez?
Oui.
Et moi, j'ai toujours un peu peur, si on chante, qu'on lance un air qui vous plaît, qui colle, que la ponctuation n'écrase la mélodie. Et moi, j'aime bien garder la mélodie, parce que quand les gens sortent d'entendre certains enregistrements, ou les gens entendent des disques, ils ne retrouvent pas la mélodie. Or, c'est une chose simple. Je vais vous dire une chose de Scotto, avec qui j'ai fait quand même des immenses opérettes, comme Violet des Impériales, Danseuse aux étoiles, toutes ces opérettes. Scotto était un homme qui travaillait à la guitare, et il y avait une pianiste qui transposait. Il m'a dit une chose que je crois est une grande leçon. Il m'a dit, tu comprends, moi, il y avait son concurrent, c'était Maurice Yvain, qui était un grand musicien, alors qu'il faisait ses orchestrations lui-même, alors que Scotto ne les faisait pas. Il m'a dit, moi, je lance une chansonnette d'amour, je commence à la gratter sur ma guitare, Zévaco la transpose au piano, et je la lance vers les galeries. Si les galeries me la renvoient, à ce moment-là, on s'occupe de l'orchestration, mais je garde ma mélodie.
Ben, vous allez voir que Scotto existe encore, qu'il y en a encore plein les rues. Puisque aujourd'hui, je vais vous faire écouter Francis Cabrel. Il chante une chanson d'amour merveilleuse. Elle s'appelle « Je l'aime à mourir ».
Moi, je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime à mourir. Vous pouvez détruire tout ce qu'il vous plaira. Elle n'a qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire. Tout reconstruire, je l'aime mourir. Elle a gommé les chiffres des horloges du quartier. Elle a fait de ma vie des cocottes en papier, des éclats de rire. Elle a bâti des ponts entre nous et le ciel, et nous les traversons à chaque fois qu'elle ne veut pas dormir, ne veut pas dormir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie, et l'amour aussi. Elle vit de son mieux son rêve d'opaline. Elle danse au milieu des forêts qu'elle dessine. Je l'aime mourir. Elle porte des rubans qu'elle laisse s'envoler. Elle me chante souvent que j'ai tort d'essayer de les retenir, de les retenir. Je l'aime à mourir. Monter dans sa grotte cachée sous les toits, je dois clouer des notes à mes sabots de bois. Je l'aime à mourir. Je dois juste m'asseoir, je ne dois pas parler, je ne dois rien vouloir, je dois juste essayer de lui appartenir, de lui appartenir. Je l'aime mourir. Elle a dû faire toutes les guerres pour être si forte aujourd'hui. Elle a dû faire toutes les guerres de la vie et l'amour aussi. Moi je n'étais rien, voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits. Je l'aime mourir. Vous pouvez détruire tout ce qui vous plaira. Elle n'aura qu'à ouvrir l'espace de ses bras pour tout reconstruire, pour tout reconstruire. Je l'aime mourir.
Voyez que des Scotto, il y en a encore. Ça. On dit ça n'existe plus, c'est pas vrai.
Oh,
écoutez,
si,
cette chanson, c'est une merveille. C'est une merveille. Et vous savez, il y a un chanteur américain que j'aime particulièrement qui s'appelle Neil Diamond. Vous avez dû entendre quelques chansons ben comme oui. ça. Il chante Désiré, il a chanté plein de chansons. C'est ce qu'on peut dire, je sais pas à qui on peut le comparer en France, à Sardou. C'est le Sardou, vraiment le gros populaire. Et il chante avec la chanteuse la plus populaire américaine, qui a une voix, c'est un diamant. C'est extraordinaire. C'est Barbara Streisand.
Ah ouais.
C'est une voix prodigieuse.
En plus, je la connais très bien. Hein?
Alors on va se l'écouter ensemble, puisque c'est l'été et tout ça. Allez-y.
You don't bring me flowers. You don't sing me love songs.
You hardly talk to me anymore. When I come through the door at the end of the day.
I remember when you couldn't wait to love me. You used to hate to leave me. Now after loving me late at night,
when it's good for you, babe, and you're feeling all right,
well, you just flowers anymore.
It used to be so natural to talk about forever. What used to be's don't count anymore. They just lay on the floor till we sweep them away.
Baby, I remember all the things you taught me.
I learned how to laugh, and I learned how to cry.
Well, I learned how to love, and I learned how to lie.
So you think I could learn how to tell you goodbye? Don't say you need me,
and you don't sing me love songs. You don't bring me flowers anymore.
Quelle beauté! Quelle sensibilité. C'est ce qu'il faut pour un chanteur et un écrivain. Guy Descartes, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous n'avez plus rien à dire après ça.
Non, mais ça revient à ce que je vous disais. D'abord, je vous dis que la langue anglaise permet des choses que ne permet pas la langue française. Et deuxièmement, que là, la ponctuation ne couvre pas la mélodie, elle reste. Et je crois que la personne qui vient d'écouter ce disque ou cet air, la mélodie lui est restée. Il faut que la mélodie reste. Et n'oubliez jamais, dans les chansons, la mélodie, comme dans un roman, c'est l'histoire. Dans une nouvelle, c'est l'histoire. Story. Il se passe quelque chose. Il y a l'amour qui passe là-dedans. Et je croyais-moi, à l'époque, comme vous disiez, de cette politique, on nous bourre le crâne de toutes sortes. C'est la seule chose qui nous reste.
Oh, il nous reste encore plein de choses. On les écoute pas trop.
Même pas notre cuisine, elle évolue terriblement.
Vous parliez de Scotto tout à l'heure. On parle aussi, on peut parler de Bruant. Et puis, on a un Bruant. On n'y pense pas, mais c'est Pierre Perret.
Ah oui. Hein? Ça, c'est un personnage, il est sympathique. Il a ce côté truculent. Moi, j'aime beaucoup.
Quand il est tendre aussi, il est formidable.
Ah oui, c'est un artiste, et il est charmant en plus. Moi, j'ai dîné un jour à côté de lui.
C'est un bon français, un bon vivant.
C'est le bon vivant, il aime la bonne bouffe, il aime les bonnes choses, il aime vivre, il a une bonne gueule réjouie, il a un petit nez marrant qui pointe contre la cavalerie, il est très bien.
Et qu'est-ce qu'il écrit bien ?
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazon et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. T'oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant Sganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock. Et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé. Ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au Lamparo. Et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver. On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fait, où il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. J'oublierai, mon petit loup, ne pleure pas. T'en
fais pas. Guy Descartes. J'ai choisi cet après-midi 3 heures de musique. On m'a laissé choisir toute cette musique. J'en ai pris l'entière responsabilité. J'étais très heureux de vous accueillir. Je rappelle le titre de votre livre, La femme qui en savait trop. Je sais que tout le monde le lit cet été sur les plages et ailleurs, bien sûr. On peut lire aussi dans son lit, on a le droit. Je voudrais vous laisser conclure. Moi, je vais vous offrir une chanson sur laquelle on danse cet été dans les discothèques. Vous parliez tout à l'heure de que la langue italienne était bonne à chanter. Je chante cet été une chanson qui s'appelle Solamente Noi. Elle est à moitié en français, à moitié en italien. On va l'écouter tout à l'heure, mais je voudrais vous laisser conclure.
Ben, moi, ça va être très simple. Je publie en ce moment La femme qui en savait trop, mais moi, ces heures ont passé vite parce que je me suis instruit. Vous savez, il y a que les gens qui ne savent rien, qui savent tout. Eh bien, ce soir, moi, j'ai vécu dans un monde différent. J'ai vécu au milieu, non seulement la chanson, je l'écoutais, mais j'ai vécu au milieu de gens qui la font, qui la chantent. Alors, je suis très heureux. Et si je sortais un roman sur ce milieu et sur moi, qui suis un néophyte dans la question, je pourrais dire l'homme qui avait tout à apprendre. Et j'ai appris une chose, en tout cas, qui est importante. Hervé Villard, je ne vous connaissais pas. Je vous connaissais de nom et de vous avoir entendu. Si vous avez une extrême qualité, c'est la gentillesse. Et je souhaite à tous les chanteurs de l'avoir.
Merci.
Solamente noi possiamo navigare insieme lontano, seguire la musica del cuore che palpita e prendere il sole facendo l'amore. Solamente noi possiamo navigare insieme lontano, seguire la musica del cuore che palpita e prendere il sole facendo l'amore. Je veux danser comme en écho
dans toutes les discothèques. L'italien c'est les grecs, les paroles on s'en fout mais ils sont plus sur la musique.
Que c'est l'été
dans toutes les discothèques. L'italien c'est du grec, les paroles on s'en fout, on va chanter sur la musique.
Solamente noi possiamo navigare insieme lontano, seguire la musica del cuore che palpita e prendere il sole facendo l'amore.
Voilà, c'est comme Capri, c'est fini. Mais j'espère vous revoir bientôt sur l'antenne de Radio Andorre. En tous les cas, je vous passe. Je suis ravi que cette émission existe encore sur Radio Andorre. Voici Salut les copains avec Arti Parera. Merci Arti, à bientôt, merci de m'avoir laissé l'antenne. Bonnes vacances à tous, au revoir.
Aquí Radio Andorra, emisora del Principado de Andorra.